Bonsoir, le président Félix Tshisekedi continue sa tournée diplomatique à travers le monde. Mardi, il s'est exprimé au sommet Action pour le climat à New York. Il a déclaré, je le cite, « Il est difficilement concevable que les forêts les mieux conservées au monde ne captent que 1% des financements disponibles. Il réclame plus d'argent au gouvernement et aux multinationales pour la protection des forêts de la planète. C'est notre premier sujet du soir. » Autre sujet au menu ce soir, c'est des actions de grève déclenchées depuis quelques jours par certaines écoles au pays. Elles réclament les enveloppes nécessaires promises par l'État pour pouvoir appliquer la mesure de gratuité de l'enseignement de base en RDC décrétée par le président Félix Tshisekedi et son gouvernement pour cette année déjà. Pour aborder toutes ces actualités, nous serons avec Joachim Diana, éditeur du journal La Colombe, paraissant à Kinshasa. Joachim Diana, bonsoir.
Bonsoir, Donna.
Mais également Joël Kadendanga, bonsoir.
Bonsoir, chers confrères, merci.
Éditeur du journal Impact News, paraissant à Kinshasa. Et enfin, Colette Salima, rédactrice en chef à Mama Radio, une radio communautaire qui émet depuis Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Colette Salima, bonsoir.
Bonsoir à tous les éditeurs de Radio Kinshasa.
À tous, donc, bienvenue dans votre émission. Et notre première traditionnelle halte sonore, voici la revue de presse.
Bonsoir, les journaux quinois sont revenus pour la plupart sur le séjour du chef de l'État Félix Tshisekedi à New York, où il participe à la 74e session de l'Assemblée générale des Nations unies. La prospérité est renseigne qu'avec plus de confiance et de détermination, mais aussi des préoccupations majeures, le chef de l'État congolais a prononcé son discours à la tribune des Nations unies, mais le quotidien termine par cette interrogation entre la demande de soutien à sa vision de développement, son ouverture à l'extérieur et à la nouvelle donne politique. 8 mois après son investiture, Félix Tshisekedi va-t-il surprendre? Et selon Le Potentiel, le chef de l'État de la RDC a pris l'engagement public devant la communauté des nations de bâtir un Congo nouveau avec le concours de ses compatriotes de l'intérieur comme de l'extérieur, mais aussi des partenaires étatiques et privés étrangers. En somme, Félix Tshisekedi est appelé à garantir au monde entier que ses promesses électorales de faire du Grand Congo un État de droit unis et prospères vont être traduites dans les actes, estime Le Quotidien. Sur place à New York, signale casse-info.ca, Félix Tshisekedi a présidé une réunion sur la paix dans le Grand Lac. Le président congolais en a profité pour multiplier des contacts aux États-Unis. Pour ce faire, il a présidé mercredi 2 importantes réunions, dont l'une sur la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs. Selon la présidence, citée par casse-info.ca, cette réunion a permis d'évaluer la mise en œuvre du processus initié par l'accord cadre d'Addis Abeba et de réengager les parties prenantes pour une nouvelle impulsion dans la concrétisation du dit accord pour restaurer la paix et la sécurité dans la sous-région. Et on peut lire sur www.radioocapi.net, le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a affirmé jeudi 26 septembre que la RDC a encore besoin de la MONUSCO dans le processus de rétablissement de la paix. Il a dit dans son discours à la 74e Assemblée générale des Nations unies. Il a aussi noté une convergence des vues avec le secrétaire général quant à l'urgente nécessité de réadapter la configuration de la MONUSCO à l'évolution de la situation sur terrain en concentrant davantage les efforts sur les capacités d'intervention opérationnelle des forces onusiennes aux côtés des FRDC. Gratuité de l'enseignement, on en parle encore. Sud Kivu, gratuité de l'enseignement des bases, grève dans plusieurs écoles de Bukavu, renseigne 7 sur 7 point CD. Certaines écoles publiques de la ville de Bukavu n'ont pas ouvert leurs portes mercredi 25 septembre 2019 et les élèves ont été obligés de rentrer à la maison. Dans les 3 communes de la ville de Bukavu, à l'instar du collège Alpha Djiri, lycée Tirezi, lycée Wima ou l'institut de Bagira, les enseignants ne se sont pas présentés dans la salle de classe. Pour sa part, Meteacongo.net note que ce que tout le monde craignait est arrivé. Les enseignants du secteur convention ont décidé de déclencher un mouvement de grève à partir du 25 septembre 2019 sur l'ensemble de la province de Sud Kivu. Une décision issue de l'Assemblée générale tenue à l'école primaire Matendo de Bukavu. Après plusieurs heures de discussion, les enseignants ont décidé de dire non à leur prise en charge par les parents à travers la prime. Ils disent exiger l'application des accords de Bibois, des accords signés entre l'État et les enseignants. enseignants. Ils disent aussi refuser tout ce qu'ils appellent prime de la brousse aux enseignants des territoires à cause des zones salariales.
Merci Kéline Kouté. Joachim Diana, éditeur du journal La Colombe, paraissant à Kinshasa. Quelle actualité que nous n'évoquerons pas ce soir dans ce débat, mais qui mérite quand même votre attention ce soir.
Oui, c'est la décision de l'Assemblée provinciale du Congo central. Et sur une télévision de la place, j'avais dit que ce serait un miracle si l'Assemblée provinciale votait pour la mise en accusation du gouverneur. Et voilà. J'avais même dit, j'ai confirmé, appeler le prophète. Appelez-moi prophète, parce que j'avais dit que ça se fera. Donc, ça se passera tel que ça s'est passé.
Et pourquoi? Quels étaient vos arguments?
Je crois que j'étais ignorant de la procédure. Je ne savais pas que on ne pouvait pas se saisir du gouverneur en soi-disant procédure d'urgence, parce qu'on estimait qu'il était en faute et qu'il fallait enlever les immunités. Quelle que soit la faute qu'il aurait commise, il fallait enlever d'abord les immunités. Je pensais que cela n'était valable que pour les députés provinciaux. Bon, voilà, c'est cela notre constitution, et il faut c'est cela la loi, il semble l'article 80 qui dit ça, que pour mettre en accusation un gouverneur, il faut l'assemblée provinciale décide.
Prononce.
Mais maintenant, ce que j'ai entendu Fabrice Puella pour déverser sa haine.
Un député national
qui déverse sa haine, il ne va pas rentrer. Mais lui, il devient quelle justice maintenant? Lorsque l'assemblée provinciale devant laquelle on avait demandé l'autorisation a refusé. J'ai aussi entendu l'ancien vice-ministre des infrastructures, ici l'homme de Némoine d'Ansem ici, Matezolo, déverser aussi sa haine. Non, nous devons être justes. On a voulu que l'Assemblée nationale, plutôt provinciale, décide. L'Assemblée provinciale a décidé. Moi, je pense que tout ce qui reste maintenant, c'est que le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur puisse lever la mesure de suspension pour que Matou Matouman rentre chez lui, qu'on ne parle pas des nés congolais, les nés congolais ne veulent pas ceci. Non. Mais pourquoi dans d'autres provinces on ne parle pas des Balouba, ou bien des Bashwaili ou des ceux qui parlent? Non, on dit les nés congolais. Non, c'est une province
de la République démocratique
du Congo qui est soumise aux lois de la République, et la loi de la République a élargi les deux gouverneurs, qu'on les laisse travailler.
Merci Joachim Diana. C'est un débat qui demeure, mais nous ne l'évoquerons pas ce soir. Joël Kadé Ndanga, éditeur du journal Impact News, paraissant à Kinshasa, votre avant-goût informationnel.
Deux petits points, mais avant la précision, c'est que on n'a pas obtenu la majorité absolue pour ne pas traduire le gouverneur et vice-gouverneur en justice. Donc il faut le retenir, c'est 21 voix sur 42. Donc la majorité absolue, c'est 21 plus une voix. Donc là, le procureur général près la Cour de cassation peut s'en saisir lui-même, et surtout qu'il y a eu une voix d'un député invalidé qui n'avait pas mandat. Donc le processus même électoral a été entaché. Alors, je voudrais un peu revenir pour décrier ces tendances. Là, à l'époque, nous condamnions Joseph Kabila parce qu'il ne s'exprimait que dans des médias étrangers, en Tanzanie, en Ouganda. Et lors des élections de 2011, pour sa première sortie médiatique, c'était aux médias anglais. Donc maintenant, nous, Congolais, journalistes congolais, on était obligés de traduire et pour rendre à notre opinion. Mais cette histoire est en train de continuer avec le nouveau régime et je le condamne. Kamere, on dénonce le détournement de 15 millions à la présidence de la République. Quel est le premier média au niveau international qui a dénoncé cela? C'est Jeune Afrique. Allez sur le site de Jeune Afrique aujourd'hui, vous n'allez plus trouver cet article-là. Il a été retiré. En revanche, la première sortie médiatique du directeur de cabinet, M. Vital Kamere, c'est dans Jeune Afrique. Et quand il sort dans Jeune Afrique, alors qu'il dispose des médias Canal Futur, animé par des professionnels, dirigé par un professionnel des médias, en tout cas très avéré, Giscard Koussema pour ne pas le citer, il n'accorde pas l'exclusivité à son propre média, il n'accorde pas l'exclusivité aux médias congolais, mais c'est à ce média étranger. Alors comprends là où on est allé plus loin. Maintenant, l'édition de cette semaine, c'est la page, la manchette. C'est Félix Tshisekedi qui est là, qui remplit la page. Et dans cette édition-là, c'est 32 pages sur la RDC. Je crois qu'il est temps que nous puissions viabiliser et faire confiance à notre, à nos médias nationaux. Pourquoi ne pas accorder la primeur aux médias nationaux?
Mm-hmm.
Et deuxième et dernier sujet qui m'a intéressé, brièvement, c'est l'intervention de monsieur Adolphe Mousito cette semaine qui traite le président de la République de tous les maux. Mais qui a instauré au ministère du budget le système 50-50 pour la paye de la dette intérieure? N'est-ce pas Mousito Adolphe? Qui a la rétrocommission?
Comment le savez-vous?
Mais ça se sait, ça se dit, et nous étions, on l'a décrit, vous avez une dette intérieure. Quand vous étiez ministre du budget, pour avoir votre argent, il vous dit, ok, votre argent est là,
j'ai une rétrocommission,
mais vous retournez 50% de votre dette, et même à la présence. Et les derniers mois de Mousito à la primature, Kabila Joseph lui avait retiré la signature. Pourquoi? C'est parce qu'il y a eu plusieurs détournements. C'est que Gécoco a condamné avec ses 350 maisons qu'il a achetées ici dans la ville. Et aujourd'hui, Mousito, c'est parmi les riches. Qu'est-ce qu'était Mousito avant d'être ministre?
Des affirmations qui n'ont jusqu'ici pas encore été prouvées.
En effet, non, ça a été... Le problème, c'est que la justice n'avait pas ouvert une information judiciaire. Si on ouvrait l'information judiciaire, on va réaliser que Gécoco Moulumba avait raison à l'époque.
Merci Kadé Ndanga, Colette Salim, rédactrice en chef à Mama Radio, une radio communautaire qui émet depuis Bukavu dans la province du Sud Kivu. Quel est votre commentaire libre?
Merci beaucoup. Moi, ce qui m'a marqué cette semaine, s'il faut parler d'abord de la province du Sud Kivu, c'est qu'il y a une recrudescence de cas d'incendie dans la province et particulièrement dans la ville. Il ne se passe plus deux jours sans que des maisons en prennent feu et où on entre des familles, plusieurs ménages qui sont sans abri. Il y a également des femmes qui sont lapidées, qui sont tuées ici, brûlées vives, parce que soupçonnées de sorcières dans les coins et recoins de la province du Sud Kivu. C'est une question qui nous a beaucoup plus touchés. Au niveau national, il y a cette question qui sera d'ailleurs à la une de cette émission, la question de l'enseignement, la gratuité de l'enseignement, qui en tout cas a laissé...
Que nous allons aborder d'ailleurs dans notre deuxième sujet de ce soir.
D'accord, voilà. C'est en fait ce qui m'a beaucoup plus marqué au courant de la semaine. Je suis contente que nous puissions également toucher cette question de la gratuité de l'enseignement.
Merci Colette Salima. Le président Félix Tshisekedi s'est exprimé mardi au sommet Action pour le climat à New York et a déclaré, je cite, « Il est difficilement concevable que les forêts les mieux conservées au monde ne captent qu'1% des financements disponibles. Le chef de l'État de la RDC recommande plus de mobilisation des fonds provenant des gouvernements, des organisations multinationales, des ONG et surtout du secteur privé, des fonds qui devraient contribuer à une meilleure conservation des forêts pour protéger la planète. Les détails avec Blaise Makassi.
D'après Félix Tshisekedi, la RDC s'est engagée à accélérer pour ses populations l'accès universel à l'électricité afin de sortir de la dépendance au bois qui représente plus de 90% de l'énergie consommée par les ménages. Le président Tshisekedi propose que les compensations financières sérieuses soient faites, des partenariats efficaces noués et le transfert des technologies réalisées afin de permettre d'œuvrer de manière durable et par une action renforcée pour l'atténuation, l'adaptation et la diminution de gaz à effet de serre qui provoquent les réchauffements climatique de la planète. Pour le chef de l'État congolais, les forêts du bassin du Congo constituent une part importante de la réponse à ces grands défis qui menacent la planète. Il entend accroître significativement les aires protégées sur l'ensemble du territoire afin de renforcer la préservation de la biodiversité. Dans ce contexte, et considérant les besoins et les préoccupations spécifiques des populations congolaises qui dépendent en grande partie de ces forêts, Félix Tshisekedi exhorte les partenaires à soutenir effectivement son gouvernement dans ses efforts pour la préservation de l'écosystème de la forêt du Congo.
Colette Salima, c'est connu, les hommes ont tendance à être verbalement un peu gourmands, alors on va essayer de récupérer la tendance. Vous avez été la dernière à parler, vous gardez la parole donc pour lancer ce premier débat. Cette position du président Tshisekedi, comment la trouvez-vous? Certains estiment qu'elle est bonne mais un peu molle.
Merci beaucoup. Le président a parlé au sommet sur l'action pour le climat au niveau du tribunal des Nations Unies. Mon point de vue, c'est que j'estime que c'est bon ce plaidoyer parce que je pense que la République du Congo a un grand rôle à jouer dans la lutte contre les changements climatiques. Mais moi, je pense, à mon avis, que ça doit commencer d'abord à la maison. Ça signifie que ça doit commencer d'abord chez nous. Avant de mener ce plaidoyer, commençons par chez nous. pour que nous puissions d'abord protéger nos vers. Pourquoi je dis le devant commencer chez nous? Nous avons, là je vais parler particulièrement de la province du Sud-Kivu que je maîtrise un tout petit peu. Nous avons une province où il y a beaucoup de forêts et les forêts sont aujourd'hui habitées par des groupes armés par exemple. Des groupes armés qui sont dans les forêts, qui coupent, qui exploitent ces bois et c'est pour des fins commerciaux. Avoir aussi la manière dont les ménages au niveau de la province vivent. Les ménages vivent en tout cas à 90%, voire même 95% avec ces bois de chauffe. Dans chaque ménage, on y trouve un brasero, dans chaque ménage, on utilise du charbon. Et ce charbon, ces bois, est exploité, quelque part, puis vendu. C'est une destruction, en fait. C'est une destruction de la nature, et nous sommes conscients que c'est une destruction. Voilà pourquoi moi je me dis qu'il faut commencer par chez nous. Nous utilisons du bois de chauffe, on est en train de déboiser les forêts, etc. Mais on songe aussi à reboiser ces forêts. Aujourd'hui, plusieurs ménages n'ont pas accès au courant électrique. Voilà pourquoi on utilise la braise, on utilise les bois de chauffe, etc. Si on pouvait penser comment les gens peuvent utiliser l'énergie solaire, l'énergie éolienne, cela serait plus avantageux pour nous-mêmes avant que nous puissions d'abord demander cette aide. Je crois qu'il y a un grand travail à faire de ce côté-là. Le gouvernement devrait voir comment vider ces groupes armés qui habitent aujourd'hui les forêts pour éviter cette destruction méchante. Il y a par exemple le parc de Kahuzi-Biega au niveau du Sud-Kivu où il y a un conflit qui oppose aujourd'hui l'INSS avec les pygmées et les peuples autochtones. Tout simplement parce que l'INSS a pensé, trouve que ces peuples autochtones détruisent en fait la nature. Mais le peuple autochtone n'est pas prêt à quitter la forêt. Je crois que de ce côté-là, le gouvernement a un grand rôle à jouer. Pour moi, le plaidoyer qu'il a fait, c'est un bon plaidoyer, mais il doit commencer par chez nous. Au-delà de ça, je crois aussi que cet argent-là qu'il est en train de demander doit nous aider à reboiser. Ça fait des années et des années qu'on a coupé les arbres, ça fait des années et des années qu'on a vidé nos forêts, mais il faut qu'on pense aussi comment reboiser nos forêts pour que dans les jours à venir, on ait encore du bois. Et en fait, ça, ma position, mais je me demande aussi, faire cette demande, c'est une bonne chose. Mais est-ce qu'il y a un plan politique aujourd'hui mis en place pour assurer le pays et même une institution, est-ce qu'une institution faite pour accompagner ce plaidoyer? Rien ne prouve, selon moi, que jusque-là, tout est prêt, que si on donnait ce fonds ne sera pas détourné. Mon souhait est qu'il y ait un fonds, ça puisse aider pour que nos forêts soient bénéfiques. Bon, voilà.
Merci Colette Salima, nous reviendrons à vous tout à l'heure. Joachim, Diana, un peu à la question de Colette Salima tout à l'heure, hein, est-ce que les États censés bénéficier des financements sont-ils bien encadrés, préparés pour qu'une fois ces fonds disponibilisés, ça puisse être correctement utilisé? À cette question, j'ajoute, on ne va pas refaire le débat sur cette question de taxation de la préservation de la forêt, mais est-ce que la question a été bien réfléchie, bien posé, vu que plusieurs années après la diffusion de cette idée, elle ne s'applique toujours pas?
Bon, mais écoutez, moi je ne veux pas verser dans les Congo bashing, dans l'autoflagellation. Je sais qu'aujourd'hui vous allez aux États-Unis d'Amérique. Le président des États-Unis estime que il n'y a pas réchauffement du climat. Pour lui, c'est un faux problème.
C'est un vrai problème.
Celui du Brésil estime que c'est un faux problème. Ils sont là, personne ne les sanctionne.
Mais est-ce qu'on peut les prendre au sérieux? C'est quand même des États sérieux avec beaucoup de moyens technologiques. Leur parole peut être plus au sérieux.
On les prend au sérieux, mais qu'est-ce qu'on on fait? Rien du tout. Le Congo a, par exemple, au parc Virunga là-bas, des réserves importantes de pétrole. Nous ne pouvons pas les exploiter pour nous développer. Nous avons ici, dans le bassin du Congo, nous avons tout.
Des ressources marines et hydrauliques.
Nous ne pouvons pas les utiliser parce que nous devons donner au monde de l'oxygène. Mais vous allez aux États-Unis, ils ont terminé leurs forêts, ils se sont développés. Maintenant, avec cette technologie, ils vivent avec ça. Mais nous, si on veut que nous ne vivions plus de nos forêts, nous ne puissions plus vivre du pétrole qu'il y a alors qu'on puisse compenser. Et je pense que c'est cela le sens du discours du président de la République. On demande aux gens, ne vivez pas de vos forêts, mais Bon, on vous apporte juste du pipi de chimpanzé comme moyen et on va faire quoi avec ça?
C'est-à-dire très peu de choses.
Très peu de choses. Alors, c'est pourquoi je pense que sur cette question, autant que sur sur terrain, nous sommes tous du bassin du Congo, mais le bassin du Congo, on n'en a pas la même étendue que Congo-Brazzaville, on n'en a pas la même étendue que le Gabon, que les autres, que le Centrafrique. Donc, on doit nous rémunérer. Comme on dit, les gros pollueurs doivent payer gros, mais ceux qui ne polluent pas doivent aussi gagner plus.
Mais Joachim Diana, comment doit se faire justement cette rémunération? Faut-il imposer ça des forces? Et si c'est le cas, comment faire pour imposer aux États et aux multinationales cette taxe de force?
Et c'est ça le vrai problème, parce que le monde entier est dans l'espèce du mariage du cavalier et du cheval. Il n'y a que le cavalier qui monte sur le cheval.
Ouais, c'est-à-dire les puissants continuent de dominer les
chevaux. Le jour où le cheval voudra monter sur le cavalier, ça devient un problème. D'abord, le cavalier n'a même pas la force de le porter. Alors voilà, c'est ça le vrai problème. Vous avez vu, lorsqu'on a essayé d'exploiter le pétrole au Virunga là-bas, tout le monde, les sanctions, on a déjà mis les mécanismes, comment ce pétrole ne pouvait pas être exploité, ne pouvait être acheté, et on devrait, la société qui devrait exploiter devrait être mise sous embargo à travers le monde entier. Mais déjà, avec nous, vite, on imagine les mécanismes. Mais quels sont les mécanismes pour punir,
recueillir cet argent
punir le président brésilien? Rien, au contraire, on est en train de le caresser dans le sens des poils, de le supplier pour qu'il puisse donner. On est en train pratiquement devant Trump, on est en train de jeter la bave du crapaud qui ne peut pas atteindre l'aigle américain qui vole si haut. Moi, je pense que en un moment, nous devons faire une révolution. S'ils veulent venir nous envahir, si on ne donne pas les moyens, mais on va couper le bois.
Je vous comprends, ça serait une mesure pour mettre un peu la pression.
Oui,
en train de vouloir nous suicider.
Oui, nous voulons mettre la pression et nous devons la mettre.
Merci Joachim Diana, Kadé Ndanga. Votre analyse sur cette question de protection du climat et de préservation des forêts.
Vous savez, c'est difficile lorsque vous avez été précédé par de grosses intelligences comme Colette, qui me fait penser à Madame Solange, paix à son âme, qui était aussi du Sud Kivu, et par l'aîné Diana. Ils ont abordé pratiquement tous les aspects, mais j'aimerais un peu rester dans l'aspect abordé par Colette lorsqu'elle vous dit
mais quelle est la politique. Aussi réfléchir un peu sur quelle pourrait être la solution pour faire cette compensation.
Oui. La compensation, on doit être bien sûr. On doit
tendre la main. Vous intervenez sur la politique, ensuite vous pourriez parler de la compensation.
Oui, bien sûr, mais il faudrait que on définisse d'abord, nous, la République démocratique du Congo, quelle est notre politique du bois, quelle est notre politique de la forêt. Et d'ailleurs, je le disais hier quelque part, pour dire, comme les partis politiques qui ont été créés en 1960, c'était un peu assis sur des assiettes tribales, il est temps que nous puissions changer la configuration de nos partis politiques. On est par exemple un parti politique de la forêt, un parti politique du bois, un parti politique des infrastructures. Il faudrait que nous-mêmes nous puissions définir. Nous avons les entreprises ici au pays comme IOB, comme DDC, IOB qui construisent les barrages, les mini-barrages. Si on construit les mini-barrages et qu'on peut nous-mêmes d'abord compenser que dans nos villages, on puisse électrifier nos villages, qu'on puisse électrifier nos cités, mais pourquoi va-t-on utiliser le bois de chauffe pour servir les ménages? Pourquoi on va utiliser la braise pour servir les ménages? Il faudrait que notre pays, comme nous avons un nouveau ministre de l'énergie, qu'il puisse développer une manière de compenser les villages, qu'on électrifie tous les villages. Quand on va nous compenser, l'argent là qui va venir, ça va partir au Gabon, l'aîné l'a dit tantôt, ça va partir
au
Brazza, ça va partir au Brésil, ça va partir en Centrafrique. Donc, on n'aura pas le contrôle de cette cagnotte. Et surtout, qu'il n'y a pas encore jusqu'ici, en République démocratique du Congo, les verrous contre la corruption.
Merci Kadé Ndanga pour équilibrer le temps de parole. Colette Salima, vous allez aussi intervenir quelques minutes avant qu'on passe au deuxième sujet. Les autres confrères ont estimé qu'il y a deux aspects dans ce problème. Il y a un peu comme une espèce de distraction des pays non développés par les pays développés avec des mécanismes et des idées comme justement les compensations de forêts, etc. Même s'il y a un peu de vérité là-dedans. Vous pensez que c'est juste de la distraction, qu'on devrait se concentrer sur sur les revenus que nous pouvons et que nous devons produire nous-mêmes dans nos pays, plutôt que d'attendre des fonds qui risquent, comme vient de le dire d'ailleurs tout à l'heure Kadendanga, de s'évaporer une fois dans les mains des dirigeants.
Merci beaucoup. J'ai tendance aussi à dire cela, à partager ce point de vue, parce que avoir le financement que nous demandons, avoir les aides que nous demandons à chaque fois qu'il y a une autorité qui quitte le pays, qui va à l'extérieur, en fait, nous demandons un peu trop, quoi. Nous demandons un peu trop, et avoir sur le terrain les résultats, très souvent, il n'y a pas de résultats. Et c'est ça qui inquiète un peu, qui fait qu'on en a un peu marre de cette demande à tout moment. Moi, je pense, demander, c'est une bonne chose, mais je souhaite que nous puissions commencer par les moyens que nous avons. Mettre en place d'abord une politique, comme le disait le confrère, une politique qui va nous aider d'abord nous-mêmes, une politique nationale qui va nous aider à développer, à protéger aussi notre écosystème.
Merci Colette Salima. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Hein. On l'a un peu effleuré dans le premier sujet de ce soir. Je crois qu'on ne va pas beaucoup s'en éloigner avec notre deuxième sujet. Gratuité de l'enseignement de base en RDC, décrété cette année dans des écoles publiques en RDC. L'application n'est pas chose faite encore dans tout le pays. Pire encore, certaines écoles du pays ont carrément, depuis quelques jours, déclenché la grève pour réclamer les enveloppes prévues pour le respect de cette mesure dans les écoles. C'est notamment le cas de l'école Mohamba de Kinshasa, mais également certaines écoles catholiques et protestantes en province. La situation au Sud Kivu avec Jean Kassami.
Dans les écoles que nous avons visitées, il n'y avait personne, y compris les chefs d'établissement. Les enseignants se sont donné rendez-vous dans une école de la ville pour décider ensemble le maintien ou non du mouvement de grève. Leur décision de débrayer ce mercredi a été provoquée par les statu quo observés dans les salaires du mois en cours. Vital Balola, préfet de l'Institut Kasali de Kadutu, se montre aussi choqué au même titre que les enseignants.
Ça ne me surprend pas outre mesure parce que nous avons l'impression comme si cette gratuité-là n'est pas bien définie au niveau de la hiérarchie politique. Certains enseignants sont déjà payés et il n'y a rien qui a été donné en plus. Alors que l'État disait qu'il y aurait une paie additionnelle majorée.
Les élèves mécontents demandent au chef de l'État de mettre les enseignants dans de bonnes conditions salariales afin que la gratuité profite réellement aux parents.
J'ai besoin d'étudier d'abord. Je ne me sens pas bien de ne pas étudier aujourd'hui, mais je ne sais pas comment ils ont refusé de ne pas nous enseigner aujourd'hui.
Les syndicats des enseignants catholiques et protestants du site Kivu indiquent que leur décision finale sera connue à l'issue de leur assemblée générale ce mercredi à Bukavu. Jean Kassami, Radio Okapi.
Joachim Diana, éditeur du journal La Colombe, paraissant à Kinshasa, pour ces écoles qui traînent à appliquer la gratuité demandée par l'État ou qui déjà sont en grève en ce moment, faut-il parler de rébellion ou tout simplement de liberté d'expression?
Vous savez que chez nous, on a l'habitude d'attendre la manne qui tombe du ciel. On a habitué au peuple congolais de croire qu'il suffit qu'un politique parle pour que les choses se réalisent. Tout se prépare. Je me souviens très bien, ce n'était pas au cours d'une réunion officielle, l'entretien privé avec Mzee Laurent Désiré Kabila, il avait que quelques jours au pouvoir, après la victoire de l'AFDL. Dès qu'on lui dit que ici ce sont les parents qui payent, il a dit non, ça doit prendre fin. Mais lorsqu'on a amené un spécialiste en privé, lui a expliqué ce qu'il y avait comme problème, il a dit oh, c'est pas possible. Bon, on va y continuer, mais en tout cas, on doit y mettre fin. Donc, c'est-à-dire que la gratuité de l'enseignement, ça vient de loin. Nous, là, on a étudié pratiquement gratuitement. Jusqu'à l'université, nous avions la bourse. Nous sommes pratiquement la dernière génération à avoir la bourse. L'autre souhait est qu'on revienne à ces pratiques-là. Mais quel est le problème? On a mal évalué la question. Lorsque vous suivez les ministres de l'enseignement...
Selon vous, les 2 milliards évoqués et présentés comme le budget qu'il faut, ça ne serait pas les vrais chiffres?
Non, 2 milliards, mais les 2 milliards, il faut les avoir. Quand vous avez un budget de 5 milliards, 2 milliards vont dans l'enseignement pour compenser la gratuité. Vous avez le militaire, vous avez un pays aussi en guerre, il faut vous défendre, tout ça. Il y a beaucoup de priorités. Qu'est-ce qu'il fallait? On croit, les Congolais croient que la gratuité, c'est une nouvelle donne qui est descendue du ciel. Mais il n'y a pas longtemps, le gouvernement passé avait décrété la gratuité en essayant. C'était un essai. On commence d'abord par toutes les provinces à l'intérieur du pays, sauf Kinshasa et Lubumbashi. Mais ça n'a pas marché.
Joachim Diana, ne pensez-vous pas plutôt que certaines écoles ont un peu cette nostalgie de la contribution des parents, et dont on sait aujourd'hui que ça représentait une très belle enveloppe confortable?
Oui, voilà le vrai problème, c'est celui-ci. Pourquoi en est-on arrivé là? Il y a eu un moment, le gouvernement ne pouvait plus prendre en charge les enseignants, il y avait des grèves, et les parents, c'est l'Église catholique qui était en avant-poste, en avant-plan. Bon, les parents, pour éviter l'année blanche, se sont entendu pour qu'ils payent. On croyait que c'était une mesure passagère, c'est devenu une tradition et ça s'est installé. Il faut en sortir, c'est vrai, ça je soutiens. Mais pour le moment, lorsque le ministre pose le problème, il pense que c'est seulement question de payer les enseignants. Mais pour les enseignants, ils posent le problème de l'amélioration de leur salaire. Le même salaire. Maintenant, là, ils sont en grève. Pourquoi? Parce qu'on leur a payé que le salaire. Il faut une compensation. C'est-à-dire quoi? La prime qu'ils avaient, que le parent suppléait, que l'État supplée en lieu et place des parents. C'est ce que les enseignants veulent.
Est-ce que, en d'autres termes, que l'État normalise un peu un
tout
salaire.
Tout à fait, qu'ils aient ce salaire. Mais j'ai entendu le ministre, on va payer 34 000. Vous allez le payer à quel taux et quel salaire? Ce n'est pas ça la véritable revendication des enseignants. Donc, et je le disais, si on ne résout pas très bien ce problème, plutôt que la gratuité qui était voulue comme mesure salutaire, va devenir un casse-tête chinois et que on risque d'avoir une année scolaire chaotique cette année. Tout à fait. Et on a commencé à l'intérieur avec toutes ces grèves.
Joël Kadé Ndanga, éditeur du journal Impact News, paraissant à Kinshasa, voilà plusieurs semaines qu'il y a désormais ce débat. Comment voyez-vous la suite? L'application de cette gratuité aura-t-elle lieu finalement cette année et selon les orientations du gouvernement ou on est en train de se diriger résolument vers des orientations réaménagées, voire adaptées aux revendications des écoles, un peu comme l'a fait savoir Joachim Diana?
Première chose, j'ai vu les gens se moquer et dire que la gratuité va échouer pour que Félix échoue. À un moment donné, je me suis posé la question. Bon, si la gratuité échoue, qu'est-ce que Félix va perdre? Parce qu'il n'a aucun enfant dans l'enseignement de base et pas même à l'école secondaire. Il a des grands enfants. Qu'est-ce qu'il va perdre? Ce que je constate est que il y a.
Mais n'êtes-vous pas d'accord qu'il y a quand même une mauvaise évaluation, sous-évaluation ou bien une évaluation pas très correcte pour la mise en place de.
Non, Diana l'a dit.
De cette mesure.
Diana l'a dit. La première chose, commençons. Consentons tous les efforts. Consentons tous les sacrifices. Syndicalistes, enseignants, parce qu'il n'y a pas que les autres qui sont bénéficiaires de cette gratuité de l'enseignement, mais il est également des enseignants qui ne sont pas à mesure de prendre en charge leurs enfants. Mais pourquoi veut-on voir comme si cette décision est politique plutôt que salutaire pour toute la République démocratique du Congo? Et on est à 3 semaines depuis la rentrée scolaire. Qu'est-ce qui fait que ces enseignants aillent trop vite et les écoles catholiques? On sait que depuis qu'on avait interrompu l'aide des Roms aux églises, à l'église catholique locale de l'Afrique, l'église catholique aujourd'hui, les couvents vivent de
leurs propres initiatives.
Oui, de leurs propres initiatives. Entre autres, c'est l'école qui y était devenue pratiquement.
Est-ce que c'est pas un peu exagéré?
Non, ce n'est pas exagéré. Moi, j'ai étudié au collège Saint-Louis, peut-être vous le savez pas. Donc, j'ai étudié dans une école catholique. Mais si vous avez vu les premières écoles qui se sont opposées à cette mesure, ce sont les écoles catholiques.
Mais les écoles, en fait, l'église catholique se défend toujours d'abord, d'être l'initiateur de cette mesure pour sauver l'enseignement, comme l'a rappelé Joachim Diana. Est-ce que leur idée n'a pas permis de sauver l'enseignement jusqu'ici?
J'étais en deuxième des humanités, chers collègues, quand ça a été lancé. Je sais combien ça pesait sur certains parents qui n'ont pas pu faire étudier leurs enfants jusqu'à aujourd'hui. Nous, là, c'est la grâce de Dieu qui est intervenue. Je sais, ça a permis que l'on maintienne quand même l'élan dans ce secteur. Mais voyez,
vous pensez que l'Église catholique fait semblant de vouloir accompagner, d'avoir toujours demandé que cette mesure cesse, et maintenant que l'État justement confirme que la contribution des parents doit prendre fin, l'Église catholique ne serait pas prête à
l'appliquer? Non, il ne sera pas. Certains couvents ne sauront pas vivre. Ça, il faut qu'on se le dise. C'est là que j'en appelle vraiment que les enseignants, les syndicalistes puissent consentir, qu'on commence d'abord. et qu'on y aille graduellement. Parce que peut-être que, d'ailleurs, beaucoup d'argent ici, c'est ici en ville. Mais allez dans nos villages de Namadimba. Qu'est-ce qu'on paye comme frais scolaires? Ce sont les maniocs, ce sont les maïs. C'est construire la case de l'enseignant. Allez dans toutes les écoles au village là. Qu'est-ce qu'on paye? On ne donne pas de l'argent. Et on vous demande, vous amenez 10 maïs, vous amenez 5 morceaux de manioc, vous amenez ceci ou vous construisez la case.
Nous allons tout à l'heure poser la question à oui. Salima qui est un peu en province.
Non, elle est en ville, elle est à Bukavu, elle n'est pas au village. Donc, c'est ce qu'on donne à Malembankoul là-bas et à Kananga, Mweka et consorts, c'est ce qu'on donne. Donc, l'argent ici en ville, c'est en ville que l'on peut évaluer les salaires de l'enseignant à $600 pour les écoles catholiques ici de la Gombe ou que l'on connaît les lycées et les collèges d'ici. Mais dans nos villages, c'est presque de la gratuité de l'enseignement.
Merci, Kadé Ndanga. Joachim Diana, vous n'avez pas prononcé les mots. Vous parlez d'une année qui risque d'être chaotique. Mais est-il possible qu'à cause de ça, que la RDC ou certaines écoles connaissent une année blanche?
Oui. Il y a, si les écoles se radicalisent, comme le mouvement commence dans les églises catholiques, on risque d'assister à des années blanches. Parce qu'en fait, il y a un programme. Lorsqu'on perd au cours d'une année scolaire qui a 9 mois, on en perd 4, mais c'est fini. C'est déjà une année blanche. Il faut doit recommencer parce qu'on ne va pas donner le programme
en
quelques mois qui restent. Donc, et tout ce qu'on est en train de perdre maintenant dans des grèves, c'est irrécupérable. Parce que l'année scolaire est bien limite. Alors, c'est ce que je dis, que l'année risque d'être chaotique. Parce que les enseignants ont... J'ai entendu les enseignants qui disaient non, nous ne voulons plus de la contribution des parents parce que
ça
nous avait dit, et puis la quote-part
oui.
des enseignants était minime. Il semblait que dans les écoles catholiques, ce n'était que 16% qui revenait aux enseignants. Et le reste,
et
il y avait à gauche, à droite, allait à gauche, à droite, il y avait d'autres engagements. Et les enseignants voulaient que cette fois, ça termine. Cette fois, ça termine, que ce que nous avions par les parents nous soit donné par le gouvernement. C'est ça. Donc, si on se met d'accord sur là, si on doit négocier avec les enseignants, c'est sur ce point-là. Ce qu'il nous faut d'abord, comme le disait le patriarche Antoine Gizenga, travaillons.
Merci.
Produisons la richesse et nous allons partager. Maintenant, on cherche à partager ce que nous n'avons pas produit.
Merci Joachim Diana. Joël Kadé Ndanga, tout à l'heure, vous interpelliez les uns et les autres à ne pas laisser s'enliser cette situation. Est-ce que vous craignez plutôt une année blanche pour certaines écoles?
Le Congo a toujours été capable dans beaucoup de choses. Il y a une main noire derrière, notamment politique, qui veut que les choses échouent pour faire porter le poids à celui qui avait fait cette promesse, croyant que c'est une affaire que Tshisekedi a menée. Pourtant, c'est consacré dans la Constitution de la République. Vous avez entendu ici Diana lorsqu'il dit que même Moussé Laurent Désiré Kabila s'était énervé pour dire que les parents ne doivent pas prendre en charge. Moi, je me rappelle, presque même à l'université, je n'ai pas payé plus de $100. J'en appelle vraiment à cette conscience des Congolais. Je crois qu'ils seront capables de se débarrasser de ces influences politiciennes, de cette influence qui vient de l'Église catholique.
Merci.
Pour que cette disposition constitutionnelle soit appliquée, respecté. Quitte à voir dans les jours à venir. Parce que même le budget n'est pas encore adopté. Le budget qui était de l'année passée, je crois que le gouvernement va solliciter les moyens. Malheureusement, on a un ministre qui a un conflit d'intérêts. Notre confrère Innocent Olenga l'avait décrié lorsque vous avez un opérateur du secteur qui est ministre du secteur et il risque d'avoir ça porter préjudice sur les écoles privées. Donc, il se battra, je le pense, pour que ça échoue, de telle sorte que
pour ne pas préjudicier les écoles privées
puissent aller plus loin.
Merci Joël Kadé Ndanga. Colette Salima, rédactrice en chef à Mama Radio, une radio communautaire qui émet depuis Bukavu dans la province du Sud Kivu. Je le disais déjà un peu tout à l'heure, que vous avez un peu le mauvais rôle. Hein. C'est un peu chez vous que certaines écoles sont en grève au Sud Kivu. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer qu'est-ce qui peut motiver cela et surtout, est-ce que on risque de se retrouver dans une année blanche ou pas?
Merci beaucoup. En fait, hein, ce qui a motivé les enseignants à aller en grève, c'est parce qu'ils sont en train de réclamer beaucoup de choses qui n'ont pas été respectées selon eux. Vous savez, la décision prise hein, par le président par rapport à la gratuité de l'enseignement, j'estime à mon avis que c'est une bonne chose. Seulement, je pense que les préalables n'étaient pas encore réunis pour que cette décision soit rendue publique. Donc, pour moi, le gouvernement devrait voir comment, peut-être après une année, hein, mettre en place cette gratuité de l'enseignement, mais pas cette année, parce que pour moi, en tout cas, les préalables n'étaient pas encore réunis pour qu'on puisse faire, plutôt arriver à cette gratuité de l'année, plutôt de l'enseignement au niveau de la RDC.
Alors, tout à l'heure, autour du plateau, ouais. Colette, on se disait que en province ou dans les contrées un peu éloigné des grandes villes, généralement on ne paye pas l'argent physique, on fait peut-être des espèces de compensations avec les produits agricoles, et que en principe la mobilisation ou pas des grands fonds pour le fonctionnement des écoles ne devrait pas s'opposer avec autant d'acuité.
En fait, c'est tout ça. Ils ont à suivre le communiqué final de leur rencontre hier mercredi. Ils ont dénoncé tout ça. Donc, ils refusent cette question des zones salariales, par exemple, où on parle de la prime de brousse, comme ça a été dit dans leurs propres termes. Donc, pour eux, un enseignant, que ce soit celui qui est à l'intérieur ou dans le centre-ville, il reste enseignant, il fait le même travail que l'autre. Donc, s'il doit toucher, celui qui est en ville doit toucher 120 $, il a également droit à ses 120 $. Il y a beaucoup de revendications hein, autour de cette question qui a poussé vraiment les enseignants à aller en grève. Il y a, par exemple, ils ont parlé des frais de fonctionnement, cette question de frais de fonctionnement qui, pour eux, est insuffisant, mais qui n'est pas aussi disponible parce que, jusque-là, ils n'ont pas reçu ces frais de fonctionnement. Il y a, par exemple, le fait que, bon, ils ont touché un salaire insignifiant. Quand ils parlent de 120 000 francs, et plus, s'il faut ajouter l'ajout que le gouvernement a promis, les 40 000 francs, ça va aller autour de 160 000 francs. 160 000 francs, c'est à peu près 100 $. Qui peut vivre avec 100 $?
Alors, Colette, Salima, pour répondre en peu de mots, donc nous devons retenir que le gouvernement devrait tout prendre en charge. Je considère ça comme votre conclusion, Colette Salima. Je donne 15 secondes à nos deux autres confrères qui sont au studio pour clôturer le débat de ce soir. En 10 secondes, Joachim Diana, que peut-on retenir? Quel est votre dernier mot?
Oui, c'est un vrai problème. Un problème qui doit toucher tous les patriotes, parce qu'en fait, si c'était les fabricants de pain, on peut dire ils vont fabriquer du pain, après on se rendra compte que ce pain est mal fabriqué, on peut refuser de manger. Mais ceux ils fabriquent les enfants. C'est-à-dire, comme aimait le rappeler Mobutu, le Congo sera demain ce que nous aurons fait aujourd'hui de sa jeunesse. Donc, ce que nous aurons fait aujourd'hui de l'enseignement, nous devons savoir ce que sera le Congo de demain. Mais pour terminer, j'ai dit ceci. Le gouvernement, le président de la République maintenant est devant un véritable dilemme. Les gens doivent le savoir. Il est en pourparlers avec le Fonds monétaire international. Qui dit Fonds monétaire international, il faut réduire le plus possible les charges de l'État. Et c'est ainsi que les bourses et tout ça ont été supprimées à cause du Fonds monétaire international. Aujourd'hui, on met le gouvernement devant un problème difficile à résoudre. Faut-il aller avec le FMI? Ou alors, on va pousser le gouvernement à faire quoi? À faire la planche à billets. Mobutu l'avait fait autrement. Lorsqu'il a fait la planche à billets pour résoudre le problème de liquidité, qu'est-ce qui est arrivé? L'inflation, on a eu des billets pour acheter un pain. On devrait avoir un million de zaïres pour acheter un pain. Merci. De 2 millions. Donc, je pense que c'est une question. Il faut qu'on rentre à la table des négociations pour que le gouvernement et les enseignants et les intellectuels congolais puissent encore réfléchir sur cette question.
Merci, Joël Kadendanga. En 10 secondes, vous êtes d'accord avec la proposition de Joachim Diane?
On doit négocier, mais il faudrait que nous puissions congolais accepter de travailler. Il a dit ce que Xeng avait dit. Travaillons, construisons nos routes de dessertes agricoles. Travaillons, tout le monde, on attend que le gouvernement fasse. Non, chacun dans son coin doit se mettre au travail pour produire. nous ne pouvons pas toujours chercher à consommer ce que nous n'avons pas produit.
Merci Joël Kadendanga, Joachim Diana et Colette Salima. Polydor Basunga, Kéline Kouté, Guy Maté, Axel Gontio m'ont aidé à préparer cette émission. Tribune de presse est finie pour ce soir. Dona Madimba, c'est moi à la présentation. Au revoir.